Je veux sortir là. Allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça fait gonfler les jambes. Allez-y.
J'adore ça. Moi je sors tout le temps.
Mais putain, ça sortait.
Je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Les touches fermes, sortez.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette. Oui, c'est intéressant. Allez-y, quoi.
Sortez.
Sortez.
Sortez, c'est
cool. Sortez les jambes.
Ok, vous voulez sortir.
Au chien bleu, c'est
sorti.
Veuillez sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sorti tous avec nous.
Sors.
Il est 16h sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis comme toujours accompagnée de Samuel. Salut Samuel.
Salut Marie.
Aujourd'hui, nous allons discuter vente de livres, seconde main et littérature, puisque nous avons le plaisir de recevoir Valérie et Corotin Allais du Bibliovore. Ils ont fondé donc le Bibliovore à Tours il y a plus d'une dizaine d'années, et c'est avec quelques recommandations de lecture qu'ils sont venus. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Merci de nous recevoir.
Alors, toute première question, qu'est-ce que le Bibliovore ?
Alors, le Bibliovore, c'est une librairie de seconde main généraliste. Hein, ça veut dire qu'on trouve des livres de tout genre, pour les petits, pour les grands, des livres sérieux, des livres plus légers. C'est de la seconde main, donc ce sont uniquement des livres que des personnes sont venues nous vendre. Donc, ils ont déjà tous eu une première vie. Donc, on leur propose, voilà, on propose nous de leur offrir une deuxième, une troisième, une quatrième. Autant de vies possibles pour autant de lecteurs possibles. Les particularités du Bibliovore, c'est que tous les livres sont vendus au même prix. Voilà, c'est notre version à nous du prix unique du livre. Donc tous les livres sont vendus 3 euros, 10 euros les 4. On propose des livres en très très bon état, proche du neuf, parce que voilà, on trouvait que c'était bien de faire vraiment une librairie de seconde main. Donc c'est un petit peu différent de ce qui se pratique en bouquinerie. Et puis on met nous entre 1000 et 1500 nouveaux livres par semaine. Donc ça permet d'avoir toujours beaucoup beaucoup de choix et puis de renouveler en permanence la proposition pour les clients.
Et la particularité de la librairie à Tours, parce qu'il y en a 12 actuellement en France, bientôt 13, donc à Tours, c'est qu'on est ouvert en plus 7-7, grâce à Anne qui tient la librairie du lundi au vendredi. Et nous, on officie les samedis et dimanches, Corentin et moi.
Et alors justement, où est-ce qu'on peut vous retrouver à Tours, à quels horaires et puis dans quelles autres villes aussi on peut vous retrouver?
Alors à Tours, c'est très simple, c'est donc du lundi au dimanche, on ne s'arrête pas de 11h à 13h et de 15h à 19h. C'est les mêmes horaires tous les jours de la semaine.
91 rue Colbert, voilà, donc juste à côté de la place Foire-le-Roi, le chemin idéal pour aller au cinéma et studio par exemple,
pour
voir les expos
bleue.
Au château.
Et puis après, oui tu disais Marie, les autres villes. Alors, je vais commencer, tu vas compléter, parce que j'en oublie tout le temps.
On essaie de faire par ordre de naissance, peut-être.
Allez, on révise. Blois, après Tours, il y a Blois, Orléans, Poitiers, Angers.
Limoges.
Clermont-Ferrand.
Besançon, La Rochelle, Le Mans.
Et Rouen.
Et donc Paris 3 et Paris 11, qui est
en préparation.
Okay. Et alors, quelles sont les idées et les principes que vous souhaitez défendre avec le Bibliovore?
Alors évidemment, il y a une vraie question environnementale. Hein, donc ça, c'est dans nos convictions aussi à nous en tant que consommateurs, hein, pour utiliser des gros mots. Donc on est content de contribuer à de la seconde main. Petit à petit, de plus en plus de personnes ont pris conscience que c'était bien aussi des fois de ne pas tout acheter en neuf. Donc on est content de contribuer à ce mouvement-là. Nous, c'est donc la 13e année qu'on fait ça. On a commencé sur les brocantes avant d'avoir la première boutique déjà rue Colbert. Et puis, forcément, ça correspond à nos valeurs écologiques. Et puis, on est content aussi de proposer des livres à des prix quand même très abordables, hein, parce que le quatrième livre est à 1 euro. Donc, ça permet comme ça de prendre le risque, entre guillemets, de découvrir des auteurs dont on a entendu parler.
Voilà, et puis c'est des livres aussi pour tous, pour les enfants, pour les étudiants, pour des livres pour la lecture sur la plage, des livres d'études. On a des choses très faciles, on a des choses très pointues. Donc ce sont vraiment des livres pour tous, à petit prix et en très bon état. Une librairie chic et pas chère, en fait.
Et donc, comment l'histoire du Bibliovore a commencé?
Elle a commencé avec Corentin, qui était professeur de français. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés en 1999, au millénaire dernier.
On a eu le concours la même année.
On a eu le concours la même année.
Tous les deux jeunes professeurs au lycée Paul-Louis Courier, déjà dans le quartier Colbert.
Pourquoi j'ai remonté jusqu'au XXe siècle là? Oui, donc voilà, c'est une idée de Corentin.
Donc ça commence en 2012.
Voilà.
Quand j'ai démissionné l'éducation nationale et donc je suis devenu marchand itinérant. Donc je vendais des livres avec le même principe du prix unique sur des stands dans les brocantes professionnelles. Donc évidemment celle de Tours qui a lieu le quatrième dimanche, boulevard Béranger. Et puis après, j'ai fait aussi la brocante à Angers tous les mois, au Mans de temps en temps, à Blois de temps en temps. Et puis en 2018, voilà, je me suis dit peut-être une petite boutique, ça peut être sympa. Et alors le choix de la rue Colbert était évident, immédiat et non négociable. Donc voilà, on a commencé à chercher.
S'il n'y avait pas eu de local rue Colbert à l'époque, on serait encore les brocantes et je serais encore prof en fait. On voulait vraiment la rue Colbert et on l'a eu
Dans la symbolique du fait d'avoir été... professeur
c'est parce que c'est nous une rue, on a plaisir à aller parce qu'il y a peu de voitures, parce que c'est très large, donc on peut se promener à vélo, à pied, il y a plein de jolies façades à voir, donc voilà, nous on est vraiment installé dans la partie semi-piétonne dans la rue, donc il y a pas de trottoir, il y a peu de voitures. Et puis voilà, ça correspondait nous à l'image qu'on a de notre librairie. Voilà, on a eu un petit coup de chance, voilà, le destin s'est occupé de nous aiguiller sur le bon local, parce qu'on est parti un samedi après-midi pour voir, en se disant, de toute façon, c'est une rue, il n'y a quasiment que des restaurants, il n'y a pas de magasin. Donc, voilà, je pense que dans 10 ans, on y sera toujours à chercher un local. Et en fait, on a visité la première librairie le jour même. Voilà.
Avec et on a eu les clés un mois après. Peu de temps après, et on n'a pas fait de travaux, en fait, à l'époque, comme on ne savait pas où on allait, on ne voulait pas trop investir. Et on a mis des étagères, les livres, boum, on a ouvert. Enfin, toi, tu as ouvert. Et dans la foulée, j'ai présenté ma démission, moi aussi, de l'éducation nationale. J'ai fini l'année scolaire quand même. J'ai emmené les petits. À l'époque, j'étais au collège de Langeais pour mes deux dernières années jusqu'au brevet des collèges. Et après, hop, on était tous les deux là-dedans, avec tous les risques que ça comportait. Enfin, on était tous les deux dans le même bateau. Plus de fonctionnaires dans la famille. Il fallait que ça marche.
Pour le coup, ça a marché.
Et alors, vous avez déjà cité quelques noms, mais de qui se compose l'équipe ?
Alors, l'équipe...
À Tours, j'entends.
À Tours, on est quatre. Donc, voilà, Valérie et moi depuis le début. Anne, qui est arrivée il y a un peu plus de 2 ans, pour remplacer notre ancienne libraire de la semaine qui est partie ouvrir le Bibliovore de La Rochelle. Donc, elle est toujours dans le réseau
Marie.
Aussi. Voilà, Marie. Et puis, depuis le mois d'août, on a un petit jeune de 21 ans, très bien, très dynamique, qui n'est autre que le fils de Valérie, que vous ne verrez pas souvent en boutique, sauf quand on fait des photos et des vidéos, parce qu'il travaille avec moi dans notre dépôt pour organiser et ranger un petit peu tout ça, parce que... comme on souhaite avoir un gros flux déjà pour que l'entreprise soit rentable et que voilà, on puisse se rémunérer, il faut manipuler beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Souvent, les clients, quand ils nous voient à la boutique, disent « Ah, bah, c'est bien, vous avez un boulot hyper tranquille, vous discutez avec les clients, vous faites des blagues, vous écoutez de la radio. » Ouais, alors, oui, c'est vrai, mais les livres n'arrivent pas tout seuls dans les étagères. Donc, il faut les acheter, les trier, les mettre en rayon. Donc, tout ça prend du temps. Et puis voilà, il faut en remettre tout le temps pour combler ceux qui ont été vendus, en enlever pour en mettre d'autres. Donc, on manipule beaucoup. Donc, voilà, maintenant, l'équipe est composée de 4 personnes. La plupart des autres bibliovores sont tout seuls ou ont un employé. Mais bon, nous, c'est la 13e année. Le plus ancien dans le réseau, c'est Blois, c'est sa 5e année. Donc voilà, chaque chose en son temps, en fonction des besoins aussi. Certains sont bien tout seuls.
Je tiens à préciser qu'on n'écoute pas la radio, comme ce que tu viens de dire.
Oui, la musique.
On écoute une super playlist. Voilà.
C'est la sienne.
Quel est le processus alors de reprise des livres et dans quel état est-ce qu'on considère les livres encore vendables ?
Alors, le processus, c'est très simple. Si on veut vendre ses livres chez nous, déjà, on ne prend pas rendez-vous. On les rachète au poids, 1 euro le kilo. C'est une donnée objective pour nous, ce qui nous évite aussi de travailler avec un algorithme qui, tous les jours, changerait le prix d'un ouvrage. Et ça nous permet aussi de pouvoir les revendre à petit prix et de pouvoir en vivre. Ensuite, il faut que les livres soient en très bon état. On est vraiment, vraiment intransigeant quand il s'agit de grands best-sellers, de romans qu'on trouve absolument partout. Eux, ils doivent être vraiment nickel. Ils doivent être en bon état quand ce sont des essais un peu plus pointus. Parfois, on peut être un peu plus tolérant. Mais attention, enfin, il faut quand même qu'ils soient vraiment, vraiment en bon état quand même. Ensuite, on est ouvert à tout thème. Même ceux qui, a priori, ne nous intéresseraient pas personnellement. Enfin, moi, si on m'amène un livre sur la pêche, au gros, voilà, ça ne m'intéresse pas. Mais je vais penser à mes clients. Et voilà, donc on est ouvert vraiment à toute thématique. Et enfin, il ne faut pas qu'il y ait un caractère d'obsolescence à l'ouvrage qu'on me propose. Si on me propose un quid 98 ou un programme scolaire... qui a changé, effectivement, on ne reprendra
Prépa
pas le livre.
82, voilà.
C'est très simple, il faut une pièce d'identité, quand c'est la première fois qu'on vient me vendre des ouvrages, et puis il faut que la personne soit majeure. Donc et entre puis, 11h et 13h, 15h, 19h, du lundi au dimanche.
L'avantage de l'achat au poids aussi, c'est que d'abord, on peut peser à la maison pour savoir à peu près combien de sous on va pouvoir récupérer. Et puis, c'est très rapide. Nous, on vérifie l'état, on pèse, on paye. Donc voilà, les gens, on ne paye pas en bon d'achat. Hein. Les gens repartent vraiment le plus souvent avec du liquide, de temps en temps des chèques quand il y a beaucoup, beaucoup de livres pour qu'il nous reste un petit fond de caisse. Mais c'est vraiment très rapide. Donc ça permet voilà, pour tout le monde d'aller vite et puis de, que ce soit transparent. Quoi. Donc tout est indiqué sur notre site internet aussi, lebibliovore.fr. Ce qui fait que beaucoup, beaucoup de clients nous ont d'abord découvert pour venir acheter des livres et puis petit à petit bah, viennent aussi nous en revendre et des fois même des livres qu'ils ont achetés chez nous. Donc on aime bien ce côté écosystème où finalement nos clients sont aussi nos fournisseurs. Tout le monde contribue au fait que ça fonctionne. Et puis voilà, donc nous on est juste le point de rencontre en fait. Hein, on se revendique comme passeurs. Donc humblement, on est là pour accueillir les livres dans les meilleures conditions pour que bah, les lecteurs puissent rencontrer le livre qui peut-être d'ailleurs va changer leur vie. On ne sait jamais.
Et alors, donc vous avez la particularité d'appliquer le tarif de 3 euros le livre et 10 euros les 4. Comment il a été choisi ce tarif ? Enfin, ce prix.
Alors, il fallait trouver l'équilibre, c'est-à-dire que ça reste rentable, parce que voilà, on est une entreprise, on n'est pas une association, donc on n'est pas subventionné. Il n'y a pas encore un ministère de la lecture qui pourrait nous allouer de temps en temps des petits fonds en plus. Donc on est totalement indépendant, ça c'est aussi une force hein, finalement. Donc on essaie d'être le moins cher possible en fait. C'est comme ça qu'on en arrive à ce prix-là, pour que ça puisse quand même fonctionner. Et en se mettant toujours à la place du client, puisqu'on est les premiers clients dans la mesure où on est des grands lecteurs depuis toujours. Donc voilà, on a fait un peu la librairie de nos rêves, c'est-à-dire des livres abordables, le moins cher possible, en très bon état, rangés comme dans une librairie de neuf, parce qu'on est finalement ouais, les premiers usagers, les premiers clients de notre propre librairie, et puis avec beaucoup, beaucoup de choses, et puis justement, ouais, pas une forte sélection, bien au contraire. Donc on est ravis d'avoir des choses complètement improbables, des choses complètement décalées, des couvertures mythiques aussi, parfois des grands classiques. Enfin voilà, ouais, un petit côté sentimental. Et sinon, pour aller un tout petit peu au-delà aussi, on s'est rendu compte qu'il y a aussi une bonne partie de la seconde main qui se passe sur les sites internet en ligne, et très souvent 3 euros c'est le prix des frais d'envoi, donc c'est difficile en ligne de trouver moins cher que chez nous. L'avantage aussi, c'est quand les gens viennent, bah, ils savent dans quel état est le livre, il n'y a pas de mauvaise surprise de dire ah bah l'annonce était bon état et puis finalement il est tout abîmé, tout griffé.
Et puis donc, ça voilà. Fait de l'envoi en moins, ça fait des cartons en moins, ça fait un commerçant de quartier qui peut travailler, qui peut vivre de son travail.
Enfin. Et puis des vraies rencontres aussi, hein, parce que voilà, là c'est en direct. Donc, on voit des vrais gens qui aussi voient des vrais gens. On peut discuter de bouquins, mais aussi d'autres choses. On a nos habitués, beaucoup de gens du quartier, des clients réguliers. On prend des nouvelles, ils en prennent aussi. C'est la vie.
Le Bibliovore aujourd'hui, ça représente 12 magasins. C'est devenu un grand réseau de vente de livres de seconde main. Comme on l'a dit, une autre librairie ouvrira bientôt dans le 11e arrondissement de Paris. Oui. Est-ce que vous vous attendiez à étendre autant votre concept et surtout aussi vite ?
Non, on ne s'attendait à rien du tout.
C'était pas prévu.
Tout est au présent, nous, en fait, à chaque fois.
Et même l'idée n'est pas la nôtre.
Non, ce sont les clients qui ont eu l'idée de qu'on s'exporte, qu'on aille ailleurs. Et après, avec le confinement, on a eu un peu plus le temps de se pencher sur cette idée qui nous paraissait extrêmement farfelue, à laquelle on était très, très réfractaire. Finalement, on s'est laissé faire et on est content parce que ça a créé de l'emploi, ça fait des gens qui, je l'espère, sont heureux dans leur librairie, eux-mêmes ont pu créer de l'emploi et ça fait des heureux lecteurs, vendeurs et acheteurs de livres dans une ville comme Clermont-Ferrand, Limoges, Besançon, La Rochelle, etc. Donc là, on est vraiment content de ça, mais non, rien n'est jamais prévu. D'ailleurs, après l'ouverture dans le 11e arrondissement à Paris, on n'a pas d'autres projets. Pour l'instant, il n'y a personne derrière. Ce n'est pas grave, puisqu'on ne s'est jamais dit il faut absolument qu'on ouvre tant de bibliovores en tant d'années. C'est,
Pas de pression, non. Pas de...
Non. Non. Et puis, on est parfaitement indépendant, donc il n'y a pas non plus de fonds d'investissement ou de conseil d'administration qui nous mettrait la pression de réussite. Donc, on a réussi à maintenir ça, à maintenir le côté très, très humain aussi.
Artisanal.
Donc, on connaît très bien les 22 personnes du réseau, hein, réparties sur les 13 librairies. On les a tous vus grandir, accueillis, formés. On est toujours en contact avec eux
on
tous les jours.
On connaît les conjoints, les enfants, le nom des chiens. Le nom des chats, j'arrive pas à retenir, il y en a trop.
Ouais.
Mais...
C'est très bien, ça me permet de faire le pont vers ma prochaine question. Quels sont alors les attendus et quels échanges vous avez alors avant d'ouvrir un nouveau magasin ?
Alors d'abord, quand quelqu'un souhaite ouvrir un bibliovore dans une ville en France, c'est ça hein, mm-hmm. Oui. Donc cette personne-là nous envoie un mail. Parfois, ça ne va pas au-delà, malheureusement. Voilà, si on parle tout de suite d'argent, de rentabilité, pas de livres, si on n'a pas la larme à l'œil avec la notion de passion, voilà. Ou voilà, c'est, voilà, on répond peut-être un peu sèchement, mais non merci. Ensuite, si la personne franchit cette première étape, on l'a au téléphone, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Voilà. Et ensuite, si ça se passe bien, cette personne-là vient nous voir à la boutique pour une journée ou deux en week-end. Là aussi, on a arrêté la gestation d'un bibliovore à cette étape-là. Ça peut arriver qu'on ne sente pas du tout la personne. C'est très humain, tout ça. Hein. Très, très. Il faut que la personne soit à l'aise dans la librairie, qu'on sente pas qu'elle joue sa vie, mais presque, parce que c'est quand même un chouette boulot. Et puis, en fonction des questions qu'elle va nous poser, on va pouvoir se dire, oui, cette personne-là peut ouvrir un bibliovore. C'est de l'humain. Et puis, en plus, cette personne-là sera amenée à rencontrer toute l'équipe et tous les autres bibliovores. Alors, une fois physiquement par an, mais quotidiennement, via un Messenger, enfin voilà. Donc.
On est vieux, quoi.
Oh. Ouais.
C'est ça.
Ah bah, on Samuel, a fait tu as l'âge de mon fils. C'est normal.
On fait avec des outils. Alors, en fait,
sachant que dans l'équipe, on a beaucoup de jeunes. Hein.
Petite précision là, sur l'ensemble du réseau. Donc, ça va de 19 à 70 ans. Donc, on a essayé de trouver un élément intermédiaire qui soit certes un peu archaïque pour les jeunes, mais pas trop compliqué pour les plus anciens.
Ouais. On est bien sûr, on viendra. Voilà,
on a des invités super sympas. Ils se sont dit qu'ils sont vieux. Super.
Moi, je le prends comme un compliment. Hein, c'est la sagesse aussi. C'est pas simplement la vieillerie. Hein, c'est pour ça. Donc, en tout cas, voilà. Ça a été réfléchi aussi, ces outils numériques pour avoir quelque chose. J'entends que je parle comme un vieux avec mes outils numériques aussi, mais ça permet comme ça voilà, de
fédérer quand même. De fédérer quand même. Envoyer des courriers, tu vois, à la plume d'oie aux autres bibliothèques.
C'est ouais, vrai, c'est ouais, vrai.
Avec un pigeon. Messenger, moi j'étais plutôt fière.
Et puis pour en revenir juste un instant sur le recrutement qui n'en est pas vraiment un, c'est vrai qu'on attend aussi des chefs d'entreprise, donc voilà, des passionnés de lecture, mais si c'est des gens qui font que lire tout seul au fond de leur chambre, ça va être compliqué d'être en contact avec une clientèle. C'est pas des profils de bibliothécaires non plus qu'on recherche, enfin, il y a quand même une partie commerciale, hein, donc il faut être à l'aise avec les gens, pouvoir parler simplement du produit, hein, comme on dit dans le commerce, sachant que l'avantage c'est comme on n'est pas cher, bon voilà, les clients, si on leur propose un livre et qu'ils disent non, finalement, j'ai pas envie, ils savent que ça va pas nous mettre à la rue. Nous, on se sent pas non plus forcé d'essayer de leur coller un truc cher. Enfin voilà, ça détend tout le monde, donc ça, c'est quand même vraiment bien. Mais on aime bien quand voilà, des gens viennent vers nous avec peut-être le projet de devenir le bibliovore. D'abord, ce que disait Valérie, hein, de les faire parler sur leur rapport au livre. Parce que, voilà, si on n'ouvre pas un magasin de chaussures comme une bijouterie, une boulangerie ou une librairie. Donc, il faut quand même avoir ce rapport un petit peu charnel au livre. Et puis, se sentir aussi quand même les épaules de chefs d'entreprise. Parce qu'ils ont tous commencé tout seuls. Avec aussi plein de choses pas drôles, de la paperasse, de la compta. Il n'y a pas que de l'accueil client. Donc, il faut voilà, se sentir aussi capable d'assumer cette pression. Parce que voilà, ça arrive, hein, ça reste du commerce. Des fois, tout va bien. Des fois, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne maîtrise pas le flux de la clientèle. On fait de notre mieux. Et puis après, voilà, on continue d'avancer en faisant ce qu'on sait faire le mieux, acheter et vendre des livres. Mais on est très sensible à ça parce que c'est vrai qu'on a eu des fois des candidatures, un peu de gens qui ne savaient pas trop quoi faire et qui se sont dit oh, bah, ça a l'air sympa, pas trop compliqué. Bon, je ne suis pas très lecteur, mais ce n'est pas très grave. Bah non, ça ne va malheureusement pas être possible. C'est pour tout le monde. Enfin, voilà, il faut trouver sa voie aussi. Donc, on essaye que tout le monde soit heureux et fier de ce qu'il fait. Donc, et puis voilà, une fois de plus, on n'a pas d'attente. Donc, à chaque bibliovore, on se dit c'est peut-être le dernier, mais ce n'est pas grave, c'est déjà super, c'est déjà incroyable. Donc, et puis, si voilà, des gens sont hyper convaincus et ont bien assimilé tout ça, ce qu'on a appelé le bibliovore spirit, parce qu'on est effectivement un petit peu décalé. Hein, beaucoup de journalistes nous l'ont dit, qu'on avait un petit peu dépoussiéré le métier, parce qu'on est un petit peu rock'n'roll, pour parler encore comme un vieux. Et on aime bien garder cet esprit-là dans le réseau. Ouais.
Donc, chaque ouverture est mûrement réfléchie.
Oui.
Et vous êtes très attaché donc, à ce côté humain.
Oui.
C'est ça. Il faudrait presque qu'on puisse partir en vacances une petite semaine avec chaque bibliovore. Enfin, dans l'esprit, on ne le fera pas, hein, si jamais ils nous écoutent. Mais parce qu'on est quand même...
Ne nous emballons pas.
Voilà. Mais c'est un peu le test ultime. On se dit, Corentin et moi, est-ce qu'on est capable de partir une semaine en vacances avec cette personne-là? Et si c'est oui, en général...
Ou faire Biarritz-Lille en voiture.
Voilà. Un bon test. Ouais.
En ayant encore des trucs à se dire à la fin.
Alors, vous êtes également venu avec une sélection de livres, à la fois pour des lecteurs initiés, habitués, mais aussi pour des lecteurs plus débutants ou qui souhaitent se remettre à la lecture. Quels sont ces livres? Est-ce qu'on peut commencer peut-être par la sélection pour les lecteurs moins aguerris?
Oui, alors, en fait, quand quelqu'un vient à la librairie et me dit « voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas lu, je ne sais pas trop quoi, vers où aller », mine de rien, c'est souvent... ce que cette personne-là regarde à la télé, c'est... Bon, Samuel n'est plus là, je vais pouvoir utiliser le mot télé, je peux. Ou on regarde tout. Non,
téléviseur.
Et ça peut m'inspirer, franchement, sur les lectures à proposer. J'ai envie de dire, il y a plusieurs tendances. Il va y avoir le feel good. Enfin, voilà, les romans où ça se passe bien. Ça permet vraiment de se... laver la tête, en fait, des récits chorales, par exemple. Donc là, je vais pouvoir aller vers du Le Gardinier, Le Digue, Grimaldi, Da Costa, Valogne, Pancol, etc. Il y a aussi les polars, franchement, pour passer un bon moment et penser à autre chose. Et Coben, ça fonctionne toujours très bien. Et notamment les adaptations Netflix vont inciter pas mal de personnes à découvrir ou redécouvrir donc des romans de Coben, de Patterson, de Vivek Hasten, par exemple. Donc ça marche très bien. Franck Tillier, Olivier Norek, ça marche très très bien aussi. Et puis Chatham, voilà. Donc même si ça fait longtemps qu'on n'a pas lu... Enfin, si on a ça entre les mains, honnêtement, ce sont de vrais page-turners et c'est parti, quoi. On retourne vers la lecture. Et puis enfin, ensuite, j'ai remarqué que les adaptations au cinéma ont ramené quand même beaucoup de gens dans les librairies, notamment pour les classiques. Enfin, regardez Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte-Cristo, Eugénie Grandet, il y a quelques années. Enfin, il y a plein de gens qui sont venus me demander les ouvrages, alors que c'est quand même une lecture plutôt exigeante, hein, mais Les Quatre Filles du Dr March, etc. Et ça fait vraiment lire. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, vive les adaptations télé, ciné, série. Ça ramène les gens à la lecture. Et ça, c'est vraiment chouette. Et puis ensuite, il ne faut pas non plus oublier qu'il n'y a pas que les romans qu'on peut trouver dans une librairie. Si on ne lit pas de fiction, bah, ce n'est pas grave. Vous pouvez retrouver grande joie à lire un ouvrage de permaculture, d'histoire, un essai. Voilà, ou La Pêche au Gros. Le fameux bouquin que j'ai finalement acheté quand même, parce que j'ai pensé à ce client-là. Il n'y a pas un livre sur La Pêche au Gros, mais si, j'en ai un. Et puis, wow, là, c'est la joie, les confettis et tout ça, quoi. Et sinon, en livre en particulier, j'en ai sélectionné quelques-uns. J'ai fini en fait cette semaine un bouquin jeunesse que je n'avais encore jamais lu de Sarah Cohen-Scali qui s'appelle Max. Vous l'avez sûrement vu en librairie, on voit un petit sorte de petit fœtus avec un brassard SS, un brassard nazi au bras, forcément c'est un brassard. En fait, ça nous fait découvrir la réalité des Lebensborn. On suit un petit bébé la veille de sa naissance. Qui s'apprête à sortir du ventre de sa maman et qui fait tout pour ne sortir que le 20 avril, de telle sorte qu'il naisse le jour de la naissance d'Adolf Hitler, parce qu'il est déjà très très fan de celui-ci. Et donc on sent tout l'embrigadement en fait de ce petit bébé-là, qui est complètement convaincu par l'arianisation. Cet enfant, on va le voir grandir. On va le voir devenir ami avec un Polonais juif enlevé parce qu'il était blond aux yeux bleus. C'est un vrai roman d'apprentissage, en fait. On va le voir s'ouvrir aux sentiments, aux émotions, à l'amour, parce que c'était quelqu'un de un personnage très, très dur, très renfermé, complètement convaincu par l'Allemagne nazie. Et c'est hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai appris des trucs dans ce livre. Et je pense que c'est un livre qui va rester longtemps dans ma tête. Alors, c'est en littérature jeunesse, mais enfin voilà, je vais avoir 48 ans, je l'ai lu et j'ai pas du tout eu l'impression que c'était un roman que pour la jeunesse. C'est aussi un roman pour la jeunesse, mais aussi pour tout le monde en fait.
Petite précision justement sur la littérature jeunesse. En fait, ça s'adresse à tous les âges. C'est justement ce qui a fait revenir aussi des gens plus jeunes en librairie, c'est que la littérature jeunesse a donné l'impulsion en dépoussiérant vraiment, alors en faisant une mise en page plus attractive, plus d'illustrations et puis des vrais auteurs. Parce qu'il y a une époque, quand nous on était plus jeunes, il y avait vraiment cette distinction. Enfin, la littérature jeunesse, c'était un peu pour ceux qui n'avaient pas réussi à faire des livres pour les grands. Et petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que d'abord, beaucoup d'auteurs faisaient à la fois de la littérature jeunesse et de la littérature adulte, à commencer par Daniel Pennac, que personne ne remettra en cause comme un auteur magistral en littérature adulte et qui a écrit des romans pour la jeunesse. Formidable aussi, il a été professeur de français pendant longtemps, donc il sait aussi à quoi s'intéressent ses élèves, il peut se mettre dans la peau d'un personnage de 12 ans avec la même qualité d'écriture que quand il fait la saga Malocène. Et ça a fait aussi ça a contribué à donner envie de lire, et il ne faut pas du tout hésiter, quel que soit son âge, à aller regarder du côté de la littérature jeunesse, parce qu'il y a de très beaux textes qui sont forcément un peu plus accessibles, en tout cas moins exigeants, et comme littérature d'évasion, c'est super, il y a énormément de thèmes abordés, et beaucoup, beaucoup de nouveaux auteurs qui proposent des choses dites, littérature jeunesse, mais en fait, on peut être jeune à n'importe quel âge.
Il y a tous les genres aussi en littérature jeunesse.
Et alors tous les deux, Valérie et Corentin, quels sont les livres ou auteurs qui vous ont donné goût à la lecture ?
Oh là là. Alors moi je suis très classique, j'étais très classique, maintenant je suis vraiment très contemporain, etc. Mais quand j'étais plus jeune, honnêtement, vraiment ce qui m'a amenée à vouloir devenir prof de français aussi, et de passer ma vie à lire, moi j'aurais adoré travailler dans une maison d'édition, enfin être payée à lire des livres, voilà. Moi c'est Maupassant. Maupassant, Zola, Victor Hugo, Baudelaire. J'étais très, très 19e. J'ai eu du mal à en sortir.
Et 19e en France.
Ouais, 19e France. Très tragique grec. Enfin, voilà. Très théâtre du 17e aussi. Et puis, j'ai découvert mes contemporains sur le tard, en fait. Le 20e siècle s'est arrêté un peu avec l'absurde, etc. Et puis... Et puis maintenant, je lis ce qui sort, en fait, et je bouffe tout ce qui sort.
Moi, j'ai été nourri au Club des Cinq, donc c'est vrai que j'étais un grand fan, ça a bien occupé une bonne partie de mon enfance. Et puis après, quand je suis allé vers des romans plus pour les grands, ma mère était institutrice et après, elle était bibliothécaire, donc il y avait beaucoup, beaucoup de classiques à la maison qui étaient accessibles, parce que j'ai grandi en passant 18 fois par jour devant les rayonnages. Donc j'avais accès facilement aussi à tous ces auteurs. Donc j'ai eu la curiosité. Et puis c'est vrai que des fois, justement, on a envie de lire des livres pour les grands quand on est plus petit, voir si on en est capable, voir si on y trouve du plaisir, si on comprend aussi, tout simplement. En tout cas, c'est une chouette motivation. Et c'est vrai que maintenant, je lis quasiment plus de fiction, sauf quand de temps en temps, Valérie me dit « Écoute, ça va te plaire, vas-y. » Donc je lis beaucoup, beaucoup d'études, parfois un peu angoissantes sur le monde dans lequel on vit, mais toujours avec un message d'espoir pour quand même essayer de construire un monde de demain qui soit satisfaisant pour tous. Mais on essaie d'y contribuer humblement. On fait notre petit colibri, notre goutte d'eau aussi. Et puis j'essaie quand même de chercher aussi chez d'autres des solutions, parce qu'on ne peut pas penser à tout. Et il y a quand même beaucoup aussi de textes qui se développent autour de ça. Donc je peux parler de nos confrères de la librairie Les Temps Sauvages, avenue de Gramont, qui ont une super sélection sur justement des ouvrages sur le monde actuel, romancés ou pas, et qui en tout cas font avancer le débat et proposent des solutions que quasiment tout le monde peut appliquer au quotidien, avec un vrai effet global. Voilà, action locale, pensée globale. C'est une très bonne transition sur un autre livre que tu as proposé. Ça s'appelle Paresse pour tous.
Paresse pour tous, un livre que j'ai réussi à faire lire à Corentin et qu'il a lu, alors qu'à la base c'est de la fiction. Et j'ai choisi aussi pour les lecteurs qui ont peut-être du mal à revenir à la lecture, tout simplement, parce que c'est un ouvrage qui est vraiment pour moi à la frontière entre l'essai politique, l'essai économique, l'essai sociaux et le roman. Donc c'est un bouquin qui est sorti en 2021, donc Paresse pour tous d'Adrien Clent au Tripode.
C'est un pseudonyme, on ne sait pas véritablement qui se cache.
On n'a pas son vrai nom. Et franchement, c'est mon livre préféré de 2024. C'est mon livre coup de cœur. Je le recommande tout le temps à la librairie. Je l'ai prêté à des copains parce que du coup, j'ai deux exemplaires chez moi que je prête maintenant. on suit donc un personnage, Émilien Long, qui a été prix Nobel d'économie pour un ouvrage qu'il a écrit, Le droit à la paresse au XXIe siècle. Sa proposition, la voici, c'est « Et si on ne travaillait que 3 heures par jour, 15 heures par semaine ?» L'idée fait son chemin, petit à petit, dans son entourage, ses proches, etc. Elle fait tellement son chemin qu'à force, on lui dit « Mais présente-toi aux élections présidentielles de 2022. » Il se présente et le livre, c'est toute sa campagne électorale pour, avec beaucoup de... Comment dirais-je, ça provoque un petit peu le mot paresse, avec toutes ces idées, mais qui vont brasser plein de thématiques, comme qu'est-ce que le travail finalement, comment ça va être possible dans le domaine de l'agriculture, par exemple. On n'imagine pas quelqu'un aller traire ses vaches que 3 heures par jour. Mais ça aborde plein de sujets extrêmement techniques et concrets. C'est vraiment un livre qui donne à réfléchir. C'est un livre qui nous donne envie de voir le nom d'Émilien Long sur un petit papier quand on va voter, sur un bulletin de vote. Donc franchement, allez dévorer ce bouquin. Et il y a la suite aussi qui a été réalisée en 2023 qui s'intitule « La vie est à nous ».
Et ça reprend effectivement toutes les perspectives et les projections des grands économistes et politiques du 19e et du 20e qui, avec les progrès technologiques, avaient prédit que finalement l'être humain aurait de plus en plus de temps à consacrer à lui-même, à sa famille, à ses loisirs. Et on a l'impression que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça et que le travail prend de plus en plus de place et que le temps libre et le bien-être en a de moins en moins. Et donc voilà un livre qui met vraiment les choses à plat en disant on le fait ou on ne le fait pas, c'est possible ou c'est pas possible. Et ce qui est troublant, c'est que ça a l'air quand même possible.
C'est brillant.
Et je pense que qui ne voudrait pas avoir plus de temps pour lui et pour les siens. Et puis, ça remet vraiment en perspective la notion de travail.
Le travail. La mamie qui garde son petit-fils pendant que les parents vont faire autre chose ou vont travailler, justement, c'est une forme de travail aussi.
Elle n'est pas payée, mais c'est du travail. Quelqu'un pourrait le faire en étant rémunéré. Donc, il y a une vraie réflexion sur tout ça. Et puis,
c'est intelligent, franchement, lisez ça. Quoi. C'est au tripode.
Ça donne envie.
Mm. Et vous savez si ces idées, elles sont parvenues à des politiques ?
Alors, je pense qu'ils ont lu le livre.
Oui, ça paraît indéniable. Après, actuellement, il n'y a pas de programme ou de parti qui revendique. On n'est pas tout à fait encore dans cette tendance-là. Donc, moi, je pense que c'est novateur, mais peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait prêt.
Et c'est un livre qui fait aussi réfléchir à la notion de consommation, à la décroissance aussi.
Jusqu'à se demander si jamais il était élu président, est-ce que ce serait judicieux qu'il se déplace à vélo ou pas, et pour des raisons de sécurité, et pour donner l'exemple. Enfin voilà, c'est des vrais sujets précis qui sont abordés.
Et pour les bibliovores, qu'avez-vous à nous proposer ?
Si on fait un tour du côté des plus lecteurs.
Ah oui, les bibliovores experts.
Ah oui, les bibliovores experts.
Oui, cette catégorie-là.
J'en ai plusieurs. Alors c'est pareil, aujourd'hui je vous parle de ces bouquins-là, et puis vous m'invitez demain, je vais parler d'autres, mais... Voilà, ce sont des livres.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une multitude de livres à recommander.
Ce sont des livres encore assez récents dans ma tête, et pour cause, il y en a un, c'est celui de Stephen King, Conte de fées, sorti en 2023. Il vient de sortir en poche. Je dis ça aussi pour les plus petits budgets, parce qu'honnêtement, pour l'instant, je l'ai dû le voir 2 ou 3 fois dans ma boutique. Donc voilà. Ça a été une grosse claque aussi pour moi de l'année dernière. Je sais qu'il y a pas mal de lecteurs qui se sont arrêtés au King plus ancien. Carrie,
Shiny.
Rage, etc. Et là, Conte de fées, mais j'ai adoré. Page Turner aussi. C'est un roman qui appartiendrait plutôt au genre de la fantasy. Je l'ai mis plutôt dans la catégorie lecteur averti parce qu'il est quand même extrêmement long, avec plusieurs étapes.
Ça peut impressionner.
Voilà. On est avec Charlie qui a 17 ans, il vit seul avec son papa devenu alcoolique suite au décès accidentel de la maman. Il voit une chienne qui n'a pas l'air d'aller très très bien et puis il rencontre le propriétaire de cette chienne dans une maison à la King, hein, comme vous pouvez imaginer. Et puis derrière la maison, bah, y a un hangar, une sorte de grange. Et sous la grange, il y a un tunnel qui emmène dans un autre monde. Donc voilà, il y a du Lovecraft, il y a du... Moi, j'ai pensé à la série Stranger Things. Il y a plein de choses dans ce bouquin. Le monde de Narnia, vous savez, on pousse une porte, on pousse un truc, et hop, il y a autre chose. Et dans ce monde-là, bah, il y a les gentils, il y a les méchants, il y a une prophétie. Enfin, on sent qu'il était peut-être attendu. C'est passionnant. Des fois, il revient de ce monde-là, après, il y retourne. Enfin, mais moi, j'étais dedans, mais je n'ai pas arrêté. Vous savez, c'est ces fameuses journées où vous... Bah, vous pouvez pas lire tout le temps, enfin c'est pas possible. Il y a la vie aussi, et dans la journée on pense qu'un truc c'est rentrer chez soi le soir et reprendre le bouquin. Bah, ça m'a fait ça avec Contes de fées et King. Franchement, mais qu'est-ce qu'il est bon en ce moment. L'année précédente, il a sorti Billy Summers, qui cette fois-ci est un policier. On suit un tueur à gages, mais c'est pareil, je l'ai pas lâché. Donc moi j'avais lâché un peu King, il y a une sorte de voilà, et en reprenant, je me dis mais qu'est-ce qu'il est bon cet auteur. Voilà, tout le monde est quoi. J'enchaîne.
Oui.
Alors, après, encore des coups de cœur. Mais ouais, forcément, j'ai que ça là, à vous communiquer. J'ai envie de vous dire d'aller vers les éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. Ce sont de très, très beaux ouvrages, d'abord. C'est eux qui ont sorti moi, ce que j'aime, c'est les monstres, là, les romans graphiques. Tous les Michael McDowell. Ils ont sorti les Blackwater, donc 6 romans.
Qui étaient édités quand au départ? À quelle période? C'était dans les années 50
60, non, c'est plus récent. L'auteur est mort dans les années en 99. Il était proche de King d'ailleurs aussi. Mais voilà, c'était pas trop bien passé en France. Et puis bah, les éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture ont remis au goût du jour les ouvrages de Michael McDowell. Avec donc les Aiguilles d'or aussi, Cathy. Et là, l'an passé, donc, ils ont sorti Lune froide sur Babylone, qui est en fait le deuxième roman de Michael McDowell. Et là, c'est vraiment génial. Alors ouais, l'univers de Michael McDowell, c'est en gros la famille, la vengeance, une pointe de fantastique la plupart du temps. Et là, franchement, dans Lune froide sur Babylone, bah, on est dans un livre d'horreur. C'est plutôt rare de lire des livres d'horreur. On pense aux films d'horreur ou aux livres fantastiques, mais le livre d'horreur, c'est un peu plus rare. Et là, vous avez une scène de cimetière là-dedans, extraordinaire. Donc Lune froide, c'est vraiment la lune et un personnage à part entière dans ce roman. Et bah, ça commence avec le cadavre d'une jeune fille qu'on retrouve... Pardon, dans une rivière, elle est accrochée à un vélo. Enfin, c'est assez glauque, mais c'est jouissif, tellement c'est glauque. Enfin, des fois, on a envie de rigoler. C'est hyper chouette. Enfin, voilà.
Plus c'est gore, plus ça devient.
Ouais. C'est ça. C'est un peu comme Tarantino, dont je suis en train de lire un livre aussi, sur son cinéma. Quand c'est un peu excessif, j'aime bien
ça
aussi.
Ça devient drôle.
Ouais.
Et c'est difficile d'intéresser un jeune public à la lecture.
Franchement, non. Non. Vous savez, les jeunes qui viennent à la librairie, bah, ils savent. Souvent, ils ont des idées très arrêtées. Bon, ils veulent tous, les plus jeunes, lire du Mortel Adèle actuellement. Et donc, on peut les guider vers autre chose. Mais je trouve qu'ils sont très ouverts. Ils regardent une belle couverture. Ils lisent les quatrièmes de couverture. Il n'y a pas de souci. Je dirais qu'il y a peut-être plus de soucis avec l'adolescent. Qui au lycée est peut-être submergé par ses explications de textes peut-être qui ne lui parlent pas trop.
Une lecture obligatoire.
Voilà, il a peut-être un peu plus de mal à revenir à la fiction, mais je crois que ça revient après. Voilà.
On a de très très grandes lectrices. Alors c'est vrai que on a constaté plutôt des lectrices que des lecteurs. Ce qu'on appelle la NRDR et Bitlit, hein, donc la New Romance, Dark Romance et la Bitlit, c'est toutes les histoires de vampires, c'est la littérature qui mord. Et là, on a vraiment des gens qui en lisent énormément et qui sont vraiment spécialistes à tel point. C'est à Rouen, il y a une librairie qui vient d'ouvrir, qui est spécialisée dans ce genre-là. Voilà, et ça fonctionne très, très bien. Donc, c'est aussi un peu une question de pratique de la lecture. Enfin, je disais, quand j'étais petit, moi, j'avais des bibliothèques partout à la maison. Donc, c'est vrai qu'après, on est habitué. Le livre fait partie de l'environnement. Quand on était prof, souvent, les parents venaient nous demander, hein, en tant que prof de français, oh là là, les enfants lisent pas, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je leur disais, mais emmenez-les dans un endroit où il y a des livres. La bibliothèque, le rayon livre du magasin le plus proche de chez vous. Et si c'est aux chances et qu'il y a qu'un rayon livre, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de l'emmener dans une grosse librairie, ça peut impressionner. Et vous lui dites, choisis-toi un livre, celui que tu veux. Voilà, je te l'offre. et sans aucun jugement. Et si c'est une bande dessinée, c'est super. Moi, j'ai lu tout Margerin, tout Gottlieb, tout Franquin quand j'étais petit. Et c'est des grands souvenirs de lecture. Et je les relis très régulièrement. Et je découvre des choses que je n'avais pas vues à l'époque. Si c'est un bouquin, effectivement, sur reconnaître les oiseaux, c'est formidable. Si c'est un livre sur la pêche au gros, c'est formidable. il faut se familiariser avec l'objet. Il faut que les enfants se rendent compte par eux-mêmes de la richesse que ça contient. Et petite anecdote, petit souvenir de quand j'étais professeur de lettres. J'ai travaillé longtemps au collège de Neuville-le-Roi, donc en pleine campagne au nord du département, avec des enfants qui n'étaient pas familiers à la lecture. Et on les emmenait au Salon du Livre à Paris, porte de Versailles. Donc c'est vendredi, samedi et dimanche, généralement au mois de mars. On les emmenait le vendredi, où il y a quand même moins de monde. Mmh. Et ils avaient chacun un chèque lire. Donc on y allait en train. On les lâchait porte de Versailles avec point de rendez-vous.
Le lâcher de gosse.
C'est ça, parce qu'on emmenait quand même trois classes de troisième, donc environ 75 ados. Et donc, ils avaient tous un budget qui était offert par le collège, le conseil départemental, pour chercher un livre. Et le soir, quand on reprenait le train, et bien chacun montrait ce qu'il avait trouvé et pourquoi il avait eu envie de prendre celui-là plutôt qu'un autre. Et c'était magique, voilà. Et ils étaient tous hyper contents. Ils avaient vu tellement de choses qu'ils avaient découvert que finalement, ah mais c'est tout ça les livres. Et oui, c'est tout ça les livres.
Ça peut être un très beau livre de cuisine aussi, un livre.
Ah, moi j'ai une petite question là-dessus justement. Donc vous étiez tous les deux professeurs de français. Qu'est-ce qui vous a amené à quitter l'enseignement pour diffuser la littérature, mais cette fois-ci avec la revente de livres?
Alors, je suis parti le premier. Alors déjà, j'ai adoré enseigner. Voilà, professeur de lettres, c'est merveilleux parce qu'on peut ramener des extraits de films, ramener des chansons, les emmener au théâtre, les emmener voir des expositions parce que tout est langage. Donc ça, c'est vraiment parfait. c'est tellement vaste. Enfin, les emmener au théâtre et leur faire jouer du théâtre et leur faire dire des textes. Moi, je faisais beaucoup aussi travailler sur la voix amplifiée. Donc je venais avec un micro et un ampli en classe pour qu'ils entendent ce qui se passe quand on amplifie la voix, l'importance du rythme, du débit, du souffle, c'était passionnant. Donc j'ai vraiment adoré enseigner. J'avais été surveillant avant pendant 6 ans, j'ai été professeur de lettres pendant 12 ans. Je suis parti en pleine gloire. Voilà. Je ne suis pas parti rincé, désespéré.
Non, il est ça. Hein.
Mais y a une définition du bonheur que j'aime beaucoup qui dit que le bonheur, c'est changer d'ennui. Et une fois que tout était bien mis en place, j'avais mon poste, donc après Neuville-le-Roi, j'ai fini ma carrière à Neuilly-Pompière, qui n'était pas très loin, avec grand bonheur également. Mais ça ronronnait presque trop, il me fallait un petit défi, un petit quelque chose. Et donc je me suis dit, je pense que j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour l'éducation nationale, enfin pour l'enseignement. D'ailleurs, je recommande à tout le monde à un moment de sa vie de transmettre ce qu'il sait. C'est génial, voilà. Et pas forcément toute sa vie. Et à un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et je suis resté dans la lecture et la transmission, mais autrement. Donc là, effectivement, les gens qui rentrent dans la librairie sont des gens qui sont déjà un peu plus convaincus de l'intérêt des livres. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas cette phase un peu de négociation que je pouvais avoir avec mes collégiens. Et puis, finalement, c'est pas si éloigné de ce que je faisais avant dans ma salle de classe. Et puis, j'aurais pas tellement été faire autre chose parce que je crois que c'est un petit peu mon chemin de vie à moi, c'est ça, c'est la transmission, le partage autour du langage et de la lecture. C'est beau, hein?
Ouais.
Oui, c'est beau.
Merci.
Moi, ce qui m'a amenée à faire ça, c'est parce que Corentin avait bien ouvert la brèche quand même. Moi, j'avais toujours voulu être prof de français depuis toute petite ou Médecins sans frontières. Mes résultats scolaires étant ce qu'ils étaient en sciences, je me suis dit, ça va être prof de français. Et je me suis régalée. J'ai plus été prof en lycée dans le sud de la France, en Drôme provençal, au lycée de Pierre Latte. J'ai très très bons souvenirs là-bas. Et donc, comme je disais, j'ai fait mes deux dernières années au collège de Langeais. Je ne savais pas que ça allait être mes dernières années quand j'ai été mutée là-bas. Mais avec l'ouverture du Bibliovore au rue Colbert, j'ai tout lâché. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, que ce soit au lycée ou au collège. Et finalement, je crois que je me suis presque plus amusée au collège les deux dernières années. D'abord parce qu'on passait moins de temps par texte. Et donc, je ne voyais pas passer 2 heures avec 30 lignes, ce qu'on peut faire au lycée. Les collégiens m'en auraient voulu. Et c'est vrai qu'on va du côté des arts plastiques, de la musique, du cinéma. Il faut toujours apporter beaucoup de support pour les plus jeunes. J'ai adoré ça. Et leur contact, par rapport aux ados que j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup l'adolescent renfrogné aussi du lycée. Mais le petit collégien, qu'est-ce que j'ai aimé ça. Qu'est-ce que j'aimais ça. Et donc, quand on a démissionné, c'est vrai qu'on n'était pas rincé par ce métier. On n'a pas été dégoûté. Il y a eu quelques moments compliqués, évidemment, hein, pendant les 19 ans. Voilà. Mais pas avec les enfants, en tout cas. Jamais. Ça, le problème ne venait pas d'eux. Et après, bah, voilà, on a continué. Alors, des fois, on nous a dit... Est-ce que les élèves ne vous manquent pas ? Donc non, les élèves ne nous manquent pas parce que si on m'avait mis dans un bureau sans voir personne, oui, là, il y a quelque chose qui m'aurait manqué. Mais en librairie, on voit tout le temps des gens et on voit des gens qui ont l'âge d'être des élèves, on voit des grands, on voit des personnes âgées. Donc non, non, c'est même beaucoup plus riche, je veux dire.
Et alors, une petite question pour les étudiants qui nous écoutent, quand on est étudiant, on peut avoir la tête donc, dans les livres universitaires, scientifiques, et on peut un petit peu délaisser la lecture plaisir avec des romans, des essais ou des nouvelles. Comment trouver du temps pour lire ? Quelles sont les habitudes à avoir pour se donner un rythme de lecture ?
Alors, y a quand même la petite lecture plaisir de l'endormissement. Ça, c'est vrai que pour en avoir beaucoup, beaucoup parlé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, pour ceux qui veulent se faire une petite discipline, c'est de s'accorder voilà, sur son temps libre. Allez, 30 minutes, ça peut être en nombre de pages. Voilà, peut-être faire ça presque comme un exercice au départ, comme voilà, on fait du gainage, on se dit allez, tous les matins, je fais 10 minutes de gainage.
Je me force à faire du gainage, j'ai à faire quelques étirements le matin maintenant.
Un quart d'heure, une minute, une demi-heure de lecture, c'est de toute façon conseillé. Alors on ne ressort pas ces bouquins de médecine pour vérifier le nom des os et ainsi de suite. On prend vraiment un truc qui n'a rien à voir et ça peut être un roman graphique, ça peut être voilà, quelque chose de beaucoup plus léger, un manga, un truc cool, voilà, pour
mais
le plaisir.
Quelque chose qui fasse plaisir.
Qui ne soit pas rentable. Voilà, donc ce n'est pas un investissement cette lecture-là, c'est du gaspillage de lecture pour le plaisir. Ça, ça n'a pas de prix, c'est un luxe extrême. Et puis, voilà, de se dire, avant de, je me prépare, je me mets au lit et je lis quelques pages pendant un moment pour soi, sachant que c'est recommandé, parce que voilà, c'est bien aussi de sortir la tête des écrans et puis aussi des livres compliqués. Donc, c'est une très bonne façon de commencer à décélérer avant de s'endormir, c'est recommandé, c'est prouvé scientifiquement. Et je pense que c'est la meilleure démarche. Et puis, dans les transports en commun aussi, ça peut être l'occasion, des fois, de lire quelques pages.
Une salle d'attente.
On peut se couper un peu de son téléphone et de son casque à un moment, de faire autre chose. C'est des petits moments où on peut trouver du temps pour se consacrer à la lecture plaisir et c'est vrai que ça fait un bien fou parce que voilà, ça aère. Et alors anecdote de la semaine dernière à la librairie, une étudiante en médecine, en quatrième année de médecine, vient me voir, donc elle avait trouvé des livres pour son plus grand malheur et qui n'étaient pas du tout des livres de médecine et me dit écoutez, là je vais me désabonner de votre compte Instagram pendant 15 jours. Bon, très bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle me dit, je suis en partiel. Et si je vois des livres, je vais forcément trouver qui me plaisent. Il va falloir que je trouve le temps de venir. Donc, je préfère ne pas savoir. Voilà,
ne pas être tenté.
Pas être tenté. Donc, voilà, pas avoir la frustration de me dire, je ne peux pas y aller, je n'ai pas le temps, il faut que je travaille mes examens. Donc, je préfère mettre en pause, en off pendant 2 semaines. Mais promis, dès que les examens sont passés, je remets en marche et je viendrai dès que je vois quelque chose qui me plaise, qui arrive souvent. J'ai trouvé ça merveilleux.
Le Bibliovore, c'est aussi un lieu d'exposition. Vous accueillez jusqu'au 23 février Babette Forestier, une artiste peintre. Quel type de création est-ce qu'elle réalise ?
Alors, Babette Forestier, c'est de l'abstrait. Il y a beaucoup de matière.
C'est la peinture acrylique pour les spécialistes.
C'est hachuré, c'est fait au couteau. Voilà, le mieux, c'est de venir voir. Mais on n'accueille pas que Babette Forestier, qui, à ce propos, expose en même temps à la galerie Noua, rue Colbert aussi. On expose aussi Fabienne Sadon-Lamy. C'est vif, c'est joyeux, c'est coloré. Vous retrouvez des oiseaux, vous retrouvez des petits animaux. Enfin, c'est
aussi trop, de la peinture acrylique pour les spécialistes.
Ouais. Et vous avez aussi Brigitte Chollet, qu'on a exposé cette semaine. C'est encore très récent, avec des paysages. Et aussi des tableaux de Patrice Lecomte, où on voit des mains qui cachent les yeux, qui cachent la bouche. Enfin, c'est très beau aussi. Donc en fait, voilà, ça tourne tous les mois et demi, on change. Mais là, j'ai prononcé le nom de 4 personnes. C'est parce qu'on a beaucoup de place. Donc on expose plusieurs artistes en même temps.
C'est fréquent ?
Tout le temps. Même à l'ancienne boutique, on faisait ça. Donc c'est de la peinture ou de la photo, quelquefois des céramiques posées. On a toujours une céramique de Catherine Azoulay, céramiste tourangelle, partie à Florence en Italie. Elle nous a laissé quelques céramiques à elle et on a une tête de buffle dans l'entrée, magnifique. Voilà.
Comme on a une bonne hauteur sous plafond, on a pu trouver un espace d'accrochage au-dessus des bibliothèques, plus tout le fond de la librairie, parce que nous, on est en open space, donc la partie un peu réserve bureau est en fait ouverte au grand public. Hein, donc on nous voit travailler, même quand on n'est pas directement en contact avec la clientèle. Et donc là, c'était des murs beaucoup plus grands, donc ça permet d'accueillir des œuvres plus impressionnantes aussi, enfin de plus grand format. Mmh. Et c'est vrai que c'est aussi parce que nous, on aime ça. Donc
on se fait plaisir avant tout. Hein.
Quand on a déménagé donc dans la librairie où on est actuellement, il y a eu beaucoup de travaux à faire parce que l'ancien locataire est resté pendant 50 ans. Donc il y avait un petit peu de frais à mettre. Donc on a pu refaire complètement selon nos goûts. Mmh. Ce qui fait qu'on a mis les éclairages qui vont bien aussi pour les expos, donc qui servent aussi à mettre en valeur les œuvres de ces artistes dont l'immense majorité sont des gens du 37. Hein, voilà, de temps en temps, on a quelques copains de copains des départements limitrophes. Donc voilà, on les accueille avec plaisir, sachant qu'on est très sollicités. Parce qu'à force, on a vraiment un réseau maintenant d'artistes qui souvent recalent des dates d'une fois sur l'autre, souvent 2 ans après, ce qui leur laisse le temps de proposer aussi de faire de nouvelles séries. Ce qui fait que là, on est en train de finaliser le calendrier 2026 quasiment, avec donc entre 3 et 5 expos pour à chaque fois environ un mois et demi. Donc nous, on est très contents. On a été très clair aussi avec les galeristes, hein, parce que nous, ce n'est pas du tout notre fonds de commerce. Donc on ne demande absolument rien aux artistes. On ne leur demande rien pour utiliser nos murs. Si les œuvres sont vendues, on rétrocède intégralement aux artistes aussi. Donc on ne prend pas de commission. Et donc on a été en parler aux galeristes officiels pour qu'il n'y ait pas de malentendu, hein, qu'ils n'aient pas l'impression qu'on essayait de marcher sur leurs pieds ou d'aller un petit peu sur leur terrain. Donc ça s'est très bien passé. On a de très bonnes relations aussi avec les galeristes Tourangeau, voilà, notamment Olivier Rousseau qui a sa galerie rue de la Sellerie, donc on se voit très souvent, hein, c'est la rue qui est parallèle à la nôtre. À Vol d'Oiseau, on est voisins d'Oado, donc ça se passe très bien aussi de ce côté-là. Et puis ça permet, on a eu beaucoup de premières expositions, des fois de jeunes gens, hein, on a eu une lycéenne, c'était ses premières peintures, et puis on a eu des retraités actifs qui étaient aussi... à montrer leur travail pour la première fois sans du tout savoir aussi si ça allait plaire aux autres, avec souvent de bonnes surprises. Je pense à Marie-Lou, hein, notamment Marie-Lou Marquez, qui osait à peine, et par des copains communs qui l'ont dit mais si, je t'emmène, je les connais bien, ils sont sympas.
Ça a beaucoup plu, là on a vendu
plein. Et on a vendu énormément. Elle était super contente que les gens aient plaisir à avoir des œuvres à elle chez eux, donc on est content de faire ça. Et puis nous, ça nous ramène toujours aussi des nouvelles personnes. Et puis, ça nous permet d'avoir une super déco qui change toute seule au fil du temps. Voilà.
Enfin, toute seule, c'est toi qui accroches.
Oui, enfin, oui. Et voilà, c'est pas nous qui avons à créer les œuvres. C'est juste à sortir les sabots, le niveau à bulle et le maître ruban et la pâte à fixe de temps en temps. Tu es en train de trahir tous les secrets.
Secret professionnel, attention.
Donc, c'est une très bonne coopération. Et puis, ça contribue à l'image qu'on voulait donner aussi de la librairie. Et puis, les gens peuvent venir même sans rien acheter. Hein, donc, c'est plus facile que quand c'est exposé dans un restaurant. C'est toujours compliqué de venir juste voir une œuvre sans rester déjeuner ou dîner. Chez nous, les gens peuvent passer une heure à regarder les œuvres et pas du tout s'intéresser aux livres. Et ils sont les bienvenus, il n'y a pas de souci. On sera ravis qu'ils soient là.
Qu'est-ce que vous préférez dans votre travail? Qu'est-ce qui vous donne le sourire?
Alors le sourire, moi c'est les gens, mais mais vraiment on a créé, mais la librairie de nos rêves, on le dit souvent, mais le métier de nos rêves, quoi.
Sur mesure.
Mais oui, c'est toujours un bonheur d'aller à la librairie, il se passe toujours quelque chose, c'est tellement humain. Et puis la plupart des clients restent un petit moment quand même dans la librairie, c'est pas comme venir acheter une baguette, hop on s'en va, enfin donc il peut vraiment se créer des choses intenses, drôles.
Des moments de vie.
Tragicomique, ouais, voilà.
Avec nous, puis entre clients aussi. Très souvent, des clients nous demandent des conseils sur tel ou tel type de littérature. Mmh. Et puis, souvent, on fait contribuer aussi les clients qui sont présents. Notamment, on en connaît maintenant beaucoup, donc on sait un petit peu qui est un peu spécialiste de quoi. Mmh. Et très souvent, voilà, on interpelle un peu nos habitués en disant un polar dans ce genre-là, ça te parle. Et c'est super, c'est super.
Ouais. Ce qu'on adore, c'est les faire rencontrer entre eux. Mmh. Je sais pas, comme l'autre jour encore, deux clients, les deux sont historiens. Pas de la même période, ils ne se connaissent pas. On dit, bah non, on va vous présenter. Et évidemment, ils connaissaient plein de gens, plein de gens en commun. Donc ça, c'est sympa. Puis les artistes aussi, souvent, ils se connaissent de manière virtuelle. Hein, mais se voir en vrai, ça, voilà, souvent, ça se passe chez nous. Donc ça, c'est toujours notre petite fierté aussi. Puis il se passe toujours plein de choses. Donc non, c'est chouette.
On parle de rencontres. Le Bibliovore, c'est un lieu qui est petit et qui donne beaucoup de convivialité. Quelles sont les rencontres qui vous ont le plus marqué, ou est-ce que vous avez une anecdote insolite à nous raconter ?
Allez, je commence par l'anecdote insolite qui est relativement récente. À un moment, en me promenant dans les allées de la librairie, qui n'est pas si petite, hein, fait quand même 60 mètres carrés, mais oui, on ne voulait pas une librairie de 1000 mètres carrés pour garder ce côté humain. Enfin voilà, tout le monde voit tout le monde, tout le monde entend tout le monde. C'est convivial. Et donc, je vois une trace de sang sur le carrelage. Et quelqu'un avec un Kleenex dans la main. Donc, excusez-moi, vous êtes coupé, vous voulez un désinfectant, un pansement. Et en fait, c'est le chien qui s'était coupé la patte, sans doute sur un débris de verre, dans la rue. Et donc, il venait de découvrir que voilà, le chien s'était un petit peu ouvert le coussinet. Donc, je suis allé chercher de quoi désinfecter. Donc, voilà, c'est inattendu. Mais on est aussi là pour ça. Si il se passe quelque chose et qu'on peut aider, bah, évidemment, on le fera de bon cœur.
Alors on donne beaucoup de verres d'eau dans notre librairie, en fait. Non, mais c'est vrai, les gens, ils viennent. Ah oh là là, j'ai porté deux sacs pour vous ramener des... Vous voulez un verre d'eau ? On a de la grenadine aussi, vraiment. Non, mais c'est compliqué, là, comme question, parce que bah, c'est une accumulation d'anecdotes, en fait, à chaque fois, notre boulot et notre vie. Et cocasse, souvent drôle, émouvante. On poste des photos en story tous les jours. Ça ne veut pas dire que tous les livres qu'on acquiert passe en story, mais on en poste quand même pas mal pour montrer un peu la diversité du choix qu'on peut trouver chez nous. Et il y a quelques semaines, un jeune homme nous écrit, a priori on ne fait pas de réservation, mais il nous écrit « Je vous suis, je suis de Tours, mais là en ce moment je suis à Rennes, je fais une thèse sur le théâtre, et là vous venez de poster un livre, il me le faut absolument, sur le théâtre amateur, je le veux, je contacte Anne qui était à la librairie en semaine, est-ce qu'on l'a toujours, ou est-ce que tu peux le mettre de côté exceptionnellement, voilà ». Et puis ce jeune homme-là de Rennes nous dit mais merci mille fois, ma maman viendra le chercher, voilà. Bah, il est venu le week-end dernier, il a acheté des livres, il m'a dit c'est moi l'étudiant de Rennes théâtre, donc évidemment je me souvenais de nos échanges. Il nous a ramené un paquet de cookies artisanaux tellement il avait été content. Et vraiment je vous remercie, enfin, mais ça fait chaud au cœur tout ça, voilà.
Et puis, ouais, dans les rencontres, on a quelques clients, bah, forcément, qui nous... ça nous fait plaisir qu'ils soient clients chez nous. Enfin, je pense à Régis, qui est un des grands chefs de la bibliothèque municipale de Tours, qui vient chez nous au moins une fois par semaine. C'est pas qu'il manque de livres, voilà, mais c'est parce qu'il est bien là. Il trouve quand même souvent des trucs, parce qu'on a beaucoup de choses assez inhabituelles. Donc, puis voilà, c'est quelqu'un du livre. Donc, c'est ça aussi, c'est la reconnaissance un peu des institutions.
Et mais puis, c'est quand Patrice Wolf de la Tulu Montinou, quand même, de France Inter, est venu dans notre librairie pour nous présenter sa belle film pour qu'ensuite on puisse l'exposer. Mais la consécration, Patrice Wolf dans ma librairie. Et puis Daniel Schneiderman qui nous souhaite un bon anniversaire de mariage parce qu'en fait, il nous suit sur les réseaux sociaux. Et puis, il a dit Daniel Schneiderman, moi j'ai grandi avec lui, j'étais assise sur mon canapé, je regardais Arrêt sur image sur la 5, avant France 5. Mais c'est. Voilà, c'est des maîtres pour nous, quoi.
Le hasard des rencontres aussi a fait qu'on est entré en contact avec Jean-Marie Laclaftine, donc écrivain et directeur de collection chez Gallimard. Donc là, c'est assez bon, voilà, au niveau de la reconnaissance du milieu. Donc ça s'est fait par son beau-frère qui a exposé des œuvres chez nous. Et voilà, et comme ça, on l'a rencontré. Il est venu à la librairie. Il était assez surpris. Il ne nous connaissait pas. Voilà,
sa femme nous connaît.
Est cliente régulière. Et en fait, bah, voilà, il dit c'est super ce que vous faites pour la lecture. Et voilà, c'est une reconnaissance aussi des gens du livre. Donc voilà, on est content aussi, cette petite fierté qu'à la fois on arrive à contenter tous les gens qui aiment les livres et on est aussi crédible finalement et reconnu par des gens voilà, qui sont passionnés dans les métiers du livre depuis toujours. Donc on est très content aussi de ce brassage. Nous, on est super content, notamment l'ouverture le dimanche, les gens ont quand même plus le temps. Et on a souvent trois générations. Et c'est super. Il y a voilà, les enfants, les parents, les grands-parents. Tout le monde est dans son petit coin en train de fouiller sur les sujets et les auteurs qui l'intéressent. Et ça fait super plaisir de contribuer à ça. On est devenu un peu point-étape aussi. Nos habitués, très souvent, quand ils ont des copains qui viennent à Tours, bon, ils font une escale chez nous pour présenter la librairie. Et puis, on a des retours aussi assez souvent de ceux qui ont été voir des bibliovores dans d'autres villes. Et qui disent, oh, non, à Limoges, elle a vachement grand. Enfin, c'est super, j'adore la déco. qui a Besançon, enfin, c'est incroyable. C'est on est content d'avoir réussi à transmettre ces valeurs-là aussi. Nous, on vient vraiment de la lecture, on ne vient pas du commerce. Et d'avoir réussi à allier les deux en douceur, c'est une de nos fiertés aussi. Ouais. Donc, globalement, on est plutôt heureux et fiers de faire ce qu'on fait. Et puis, oui, sur le fait de faire un costume sur mesure, c'est vrai que pour les horaires aussi, l'avantage d'être son propre patron, voilà, on décide de tout. Alors, c'est angoissant parce que c'est justement, il faut décider de tout. Mais en même temps, ça permet vraiment de faire quelque chose qui nous correspond.
Et la dernière question, parce qu'on arrive, hélas, à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez développer dans les années à venir avec le Bibliovore?
J'ai plus d'idées, moi. qu'est-ce qu'on pourrait développer? T'as des idées? Ou tu m'en aurais pas parlé? Tu le dévoilerais comme ça en direct à la radio et tu n'aurais pas été mise au courant avant?
L'idée, c'est de continuer déjà comme ça se passe. Voilà.
Sur cette très bonne lancée.
Exactement. Ouais. Et puis, ce qu'on a commencé déjà un petit peu à développer, c'est un peu plus de visuel, que ce soit photo ou vidéo.
Ça, on a plein d'idées sur plusieurs années. Mais on ne veut pas tout montrer en 2023, 2024, 2025.
On a fait une série d'exercices de sport à faire avec des livres pour les JO l'année dernière, qui s'appelle avec le Bibliovore. Je prends aussi soin de mon corps.
Vous n'avez pas vu ça? C'est génial.
C'est à retrouver sur YouTube. Mmh. C'est 6 vidéos de 40 secondes.
Abonnez-vous à la chaîne YouTube.
C'était sympa à faire et c'est marrant à voir. Donc voilà, c'est ça le Bibliovore Spirit aussi.
Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux?
Oui, bien sûr. Donc Facebook. Le Bibliovore et Instagram, le Bibliovore, tout simplement. On a
internet.
Un super site internet. Je dis super, il est géré par Corentin, c'est trop bien fait avec des photos de tout le monde, des vidéos, des revues de presse, etc. De tout
le Bibliovore.fr, tout simplement.
Merci beaucoup, Valérie et Corentin Allais, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je passe le relais à Samuel.
Le podcast de l'émission est à retrouver sur Radio Campus Tour. Et nous vous souhaitons une agréable soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Radio Campus 99.5. Radio Campus 99.5. J'ai dit Radio Campus 99.5. Radio Campus Tours.